Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à ceux qui sont derrière l'écran, que ce soit à la maison ou en vacances. Merci le streaming qui nous permet d'être toujours en relation. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est extrêmement vaste et qui a d'énormes facettes de tout genre pour chaque personne plus ou moins différente. Je vais vous parler de la foi. Et ce message s'est articulé par l'Esprit-Saint d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'après un préambule et une petite introduction, il y aura un passage au travers de la Bible pour faire la connaissance ou refaire la connaissance avec nos cousins, nos frères et nos sœurs dans la foi. Et ensuite, je parlerai un peu du chemin dont a parlé d'ailleurs Fernand pour ouvrir la barrière. Et je terminerai par des témoignages personnels. Comme ça, vous n'êtes pas surpris du chemin que nous allons entreprendre. Déjà, la question, qu'est-ce que la foi ? Est-ce que c'est suivre une idéologie ? C'est très difficile de définir la foi. Au niveau étymologique, la foi désigne le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Par exemple, la foi en une capacité. Quand je prends l'ascenseur, j'ai foi qu'il va m'amener à l'étage que j'ai demandé. Rarement, je pense qu'il va peut-être pouvoir lâcher et que je vais m'écrouler. Il faut savoir qu'il y a des parachutes. Un jour, Moanza et notre fille étaient dans l'ascenseur, très défectueux, et le premier câble a lâché, mais il y avait le parachute. Donc, c'est vous dire que chaque fois qu'on entre dans l'ascenseur, on n'y pense pas. Donc, c'est une foi en la capacité de l'ascenseur. Comme quand on met le moteur en marche de notre voiture, etc., etc., etc. Dans notre histoire terrestre, il y a eu beaucoup de guerres. Et il y en a encore beaucoup. Et ces guerres ont été, la base a été un concept de la foi pour tuer, pour massacrer, pour torturer. Au nom d'une croyance, au nom d'une foi en un concept, en un Dieu, et même au nom de Dieu, comme les guerres saintes, par exemple, ou les guerres de religion. Mais si on regarde plus loin, c'est-à-dire pas seulement les guerres, mais les responsables qui ont influencé ces peuples à s'engager dans ces horreurs, ils n'avaient que deux buts, le pouvoir et l'argent. La foi, elle n'est pas dedans, c'était un moyen, un ustensile. Ils avaient le but d'agrandir leurs terres, d'avoir plus d'argent, comme les marchands d'armes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une fois qu'une guerre s'arrête quelque part, il y en a une autre qui s'ouvre ailleurs. Ah, il faut qu'ils aient leur sceau, hein, les marchands d'armes, hein. Il faut les comprendre quand même. Ou alors, les gens voulaient étendre leur influence. Certains chrétiens, lors des croisades, c'était leur but, au travers de la torture, de la mort et tout ça. Plus proche, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Hitler voulait être un dieu et était considéré par beaucoup comme tel. Mais avant tout, son moteur, c'était d'avoir de l'argent, et c'est pour ça qu'il a tué tant de juifs, parce que c'est eux qui avaient l'argent, et le pouvoir qui ont été son moteur, ses moteurs. Comme vous pouvez voir, la foi, ça peut être sacrément tordu. Mais lorsque nous parlons de la foi chrétienne, il s'agit de faire une confiance totale, et nous l'avons chanté à différentes reprises, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Une foi dont le moteur est l'amour de Dieu pour nous, et cette foi ne peut s'alimenter qu'au travers d'une relation personnelle entre Dieu et nous. Et cette adhésion trouve sa source en ce que Dieu a fait. Fernand l'a rappelé, le sacrifice de Jésus pour nous donner la liberté, est le fait qu'il nous aime en premier. Maintenant, nous allons faire un petit parcours dans la Bible, voir nos cousins, nos frères et sœurs. Et je vais prendre évidemment ce fameux chapitre de la foi qu'on trouve en Hébreux 11. Hébreux 11, 17, 19, Abraham va accepter par la foi d'offrir son fils unique, l'enfant de la promesse, il va le mettre en sacrifice. Sa confiance en Dieu est extraordinaire. Lorsqu'il ose dire « Dieu pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste ». Et si nous lisons, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, et c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Plus loin, nous voyons les parents de Moïse, qui ont osé au péril de leur vie de désobéir à Pharaon en cachant la naissance de leur fils. Nous trouvons également dans cette histoire l'humour de Dieu, parce que Moïse va se retrouver au palais royal et il va grandir comme le fils de la princesse du Pharaon, de la sœur du Pharaon. Lisons juste ce passage, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Moïse s'est, comme ses parents, trouvé à la croisée des chemins, au niveau de sa foi, lorsqu'il a dû choisir entre une vie de prince ou son peuple. Et nous lisons dans Hébreux 11, les versets 24 à 27, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé la fils ou fille de fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Et c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il s'est montré déterminé, comme s'il voyait ce qui était encore invisible. Et plus tard aussi, ce sera par la foi qu'avec un bâton, Moïse va ouvrir un chemin au travers de la mer Rouge, comme nous l'avons chanté aujourd'hui. On ne s'est pas concerté, hein? Ni Fernand, ni les louangeuses, ni moi. Hein? Plus loin, c'est encore par un acte de foi que Josué, avec le peuple, va détruire les murailles de Jéricho, alors qu'en peu de temps avant, tous les hommes avaient été circoncis, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient en état de faiblesse, et pourtant ils étaient prêts à affronter cette ville. Nous lisons en Hébreux 11, 30, « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. » Rendez compte, l'acte de foi pendant 7 jours, faire le tour de cette immense ville où les murailles sont tellement larges qu'il y avait des maisons construites dedans. C'est impressionnant. Et les archéologues ont confirmé sur les restes de Jéricho que ça s'était tombé effectivement comme ça. Donc nous pouvons croire en notre parole, elle est prouvée par les scientifiques. Nous arrivons à Rahab, une étrangère. C'est un merveilleux exemple de foi qui va la justifier alors qu'elle est une femme de mauvaise mœurs et de plus une étrangère. C'est dans Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et ce qui est merveilleux quand vous lisez le passage dans Josué, c'est lorsqu'elle s'est trouvée en présence des espions, elle a fait une merveilleuse déclaration de foi que l'on peut lire en Josué 2, 8. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. » Quelle parole d'encouragement pour ces espions. Et ensuite, si vous lisez la suite, vous lirez qu'elle a encore rajouté, rajouté, rajouté toutes les œuvres de Dieu. C'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup Rahab. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est vraiment une clé pour nous montrer les actes de foi. Et on peut lire encore plus loin à partir de Hébreux 32, enfin 11-32, et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Ce sont nos cousins-cousines, nos frères et sœurs, et nous sommes censés pouvoir faire la même chose par la foi. Et c'est un encouragement à lire ce chapitre qui nous permet de croire que nous aussi, par la foi, nous pouvons agir avec puissance, être des soldats du Christ victorieux dans nos vies et autour de nous. Est-ce que le jour où Jésus ouvrira le livre de vie, alors que nous serons devant lui, il pourra mentionner nos actes de foi que nous aurons posés dans notre vie ? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Pour avoir cette foi victorieuse, je pense que nous avons un chemin à parcourir, un chemin qui, de bébé, nous porte à adulte en Christ. Déjà, souvent, notre cheminement de chrétien, lorsque nous rencontrons Jésus, il nous arrive des miracles. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, nous, oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand ils parlent de leur rencontre avec Jésus, ça commence par une rencontre et ensuite il y a des miracles. Eh bien, Dieu, dans sa grande bonté, c'est la période où nous sommes chauds bouillants pour lui qu'il nous offre des miracles. Et puis, arrive une période plus calme où on peut entrer dans une communauté, apprendre à parcourir la Bible, vivre une vie différente. Et là encore, de ci, de là, il y a encore des miracles. Mais nous pouvons aussi, dans notre parcours, vivre une période de désert, sans miracle, sans moment extraordinaire, et où facilement peut s'installer une monotonie et où notre foi peut petit à petit disparaître, ainsi que notre relation avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous attend. Sachez-le. Pas de miracle, rien d'extraordinaire dans vos vies. Dieu vous attend à ce moment-là. Est-ce que tu es encore avec moi ou est-ce que tu vas partir? C'est la question. Il attend de notre part que nous puissions alimenter notre foi sans miracle, même dans la monotonie. Et si nous arrivons à traverser ce désert, Dieu sera au bout du chemin. Et nous pourrons recevoir dans ses bras d'amour tout ce qu'il a envie de nous donner. Et on aura réussi ce parcours du combattant et ça nous permettra de devenir des chrétiens inébranlables. C'est aussi un but. Mais parfois, le commencement du parcours du croyant est un peu chaotique. Et j'aimerais pour ça reprendre l'évangile de Luc au chapitre 8. Lisez ce chapitre en entier, il y a une kyrielle de paraboles. Il y a une kyrielle d'explications. Et certaines ne sont pas très claires, d'autres le sont. Jésus s'exprime en paraboles. La première, c'est dès le verset 4, où c'est la parabole du semeur qui sème dans des terrains différents, le long du chemin. Il y a le sol pierreux, les ronces et enfin la bonne terre. Les disciples demandent à Jésus une explication. Et on lit dans Luc 8, 10, où Jésus répond aux disciples et leur dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Alors j'aimerais vous dire que nous, on a la Bible, on n'est pas comme eux, on a la chance d'avoir les paraboles et les explications en même temps. Et ça, c'est chouette. Est-ce que notre foi peut être alimentée par toutes ces paroles qu'on trouve dans la Bible? Lisons un petit peu plus loin, au verset, toujours le Luc 8, au verset 16. Jésus continue son explication et on lit au verset 16 « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Il nous a été donné à nous de connaître les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez ce passage? Est-ce que par la foi, vous y croyez? Moi, j'ai mis un certain temps à le comprendre, je ne vous cache pas. À partir de Luc 8, du verset 19, on lit encore une autre histoire un peu qui m'a interpellée. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Il répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors on peut se dire, « Chouette, j'ai pas besoin d'être de la lignée de Jésus, puisque si je crois, je suis un enfant ou un frère dans le royaume. » Mais ça va plus loin. Ce passage, qui n'a pas toujours été clair pour moi, est devenu un peu plus clair au travers de certains commentateurs. Et je commence à mieux le comprendre, parce qu'il est lié avec l'histoire de la lumière dans la pièce qu'il ne faut pas mettre sous un vase et qu'il faut mettre bien en vue. La condition pour accéder au mystère, c'est d'entrer dans la pièce. Autrement dit, d'aller vers Jésus, qui est la lumière, et Jésus qui doit être vu au travers de notre foi. Aller vers Jésus, c'est ce que prétendent la mère et les frères de Jésus. Ils font partie de sa famille, dite biologique. Ils aimeraient s'approcher de leur fils, de leur frère, mais dans les faits, ils restent dehors. Ils ne sont pas encore prêts à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ils représentent un terrain infertile si on reprend la parabole du semeur. Ici, en grec, « rester » est décrit comme le résultat d'une action qui dure. Il reste dehors longtemps. Parce qu'entrer dans la pièce, c'est s'avancer vers la lumière, c'est s'avancer vers Jésus. Alors je vous pose la question, est-ce que vous, vous êtes avancé vers cette lumière ou est-ce que vous restez dehors? Est-ce que cette lumière, elle reste toujours brillante dans vos cœurs par la foi? Est-ce qu'elle vous permet d'être des disciples utiles pour le royaume? Par la foi, vous en êtes où? Au dehors? À l'entrée? Restez-vous dans le parvis? Dans le lieu saint? Ou êtes-vous entré dans le lieu très saint qui nous est accessible depuis la mort de Jésus? Tant que la maman et les frères de Jésus n'entrent pas, ils ne peuvent pas devenir disciples de Christ. Car quelque part, ils ne sont pas prêts à écouter et mettre en pratique la parole. Heureusement, nous le savons par la suite, que la maman de Jésus ainsi que ses frères vont devenir des croyants, et pas n'importe lesquels. Marie va faire partie des femmes qui vont trouver le tombeau vide et annoncer la résurrection de Jésus. Que dire de Jacques, qui va devenir le responsable et le chef de l'église de Jérusalem? Nous le voyons en Actes 1, 14. Et avec Jude, on a même des épîtres de leur part. Mais à ce moment-là, quand Jésus a dit « Qui sont mes frères et mes sœurs? Qui est ma famille? Sont ceux qui écoutent la parole de Dieu ?» Ils n'étaient pas encore prêts. Et je trouve encourageant de voir ça comme ça, parce que ça veut dire qu'on a un chemin à parcourir. Pour être disciple, il ne faut pas seulement écouter, il faut mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, la foi est indispensable. Regardons l'épisode de la tempête. C'est toujours dans Luc 8, les versets 22 à 25. On voit les disciples qui sont apeurés par cette tempête énorme. Le bateau chavire, l'eau rentre, ils essayent d'écoper. Et puis, normalement, ils devraient avoir la foi. En plus, Jésus est dans la barque. Et ils ont peur. D'ailleurs, Jésus leur dira, mais où est votre foi? On peut dire qu'ils étaient encore des enfants dans la foi, parce qu'ils ont regardé aux circonstances et pas à Jésus. Alors, lorsque nous, nous traversons des tempêtes dans nos vies, est-ce qu'on réagit comme les disciples ou est-ce qu'on réagit par la foi? Est-ce qu'on a des peurs, des tremblements ou est-ce qu'on reste plus ou moins zen, assis dans les lieux célestes, en laissant Dieu par la foi nous envahir au travers du Saint-Esprit pour recevoir sa paix? Quand tout va bien, c'est facile. Nos problèmes, j'ai un travail, j'ai des sous, j'ai une bonne santé, etc., etc. Mais quand tout va mal, c'est là que notre foi peut devenir vacillante et qu'on peut se poser la question, sommes-nous des Moïse, des Rahab? J'arrive à la conclusion que j'espère pouvoir vous donner sans trop pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous recevez Jésus dans votre cœur, si vous quittez le parvis pour entrer déjà dans le lieu saint, pour aller ensuite dans le lieu très saint, le Saint-Esprit est en vous et c'est lui qui va vous aider, vous guider, vous parler. Il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut que notre ligne téléphonique avec Dieu ne soit pas remplie de fritures, mais que le ciel soit ouvert. Tous les prophètes de la Bible, et bien d'autres encore, avaient cette ligne ouverte. Ils entendaient Dieu leur parler. Ils ont annoncé le futur avec assurance, même sans comprendre, tel Ésaïe, qui a annoncé non seulement la venue du Messie au travers d'une vierge, mais également la croix, ceci 700 ans avant que les événements n'aient lieu. Tel Joseph, qui après de longues années d'épreuves avait compris pourquoi sa vision au départ qu'il avait donnée à ses frères était valable. C'était Dieu qui avait préparé un chemin. Mais il avait préparé Joseph en lui donnant cette vision. Mais il fallait encore la comprendre. C'est pour ça qu'il faut garder la foi. Et quand on reçoit des paroles de Dieu, il faut se les remémorer, il faut se les écrire dans un cahier, voire dans votre Bible. C'est important. Alors je vais concrétiser ces paroles par des témoignages personnels. Assez variés, mais qui sont toujours sur la même ligne. On était des jeunes dans la foi et nos enfants étaient des enfants. Je crois que Majo devait avoir 2-3 ans. Et puis un jour, dans le cadre de la louange, dans un culte, j'ai reçu une vision. C'était une longue table avec beaucoup de gens tout autour. Puis moi, j'étais assise à cette table. Et une voix m'a dit, ce sont tes enfants, leurs conjoints, tes petits-enfants, ils sont tous dans la même foi que toi. Il a fallu dégérer la chose. Puis ensuite, j'ai demandé à une sœur en Christ, mais écoute, qu'est-ce que je fais avec ça? Et elle m'a dit, garde-la sur ton cœur, parce qu'à chaque fois qu'il y aura des épreuves, il faudra la rappeler. Et c'est ce que j'ai fait. Si Dieu nous donne une vision, une parole, gardez-la, accrochez-vous à cette parole, et quelles que soient les circonstances, rappelez-la à Dieu. Plusieurs années après, mes enfants étaient encore petits, ils n'avaient toujours pas de conjoint, j'ai eu, dans le cadre de mon séminaire sur la psychothérapie, la chance de recevoir une prophétie du pasteur Jean-Claude Chablot, qui était aussi un grand prophète. Et il m'a donné ce message de la part de Dieu. Écoutez bien. Il faut que je retrouve ma page. Oui, c'est là. Ton mari et toi êtes une maison qui accueille, et tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants serviront l'Éternel. Mais depuis ces prophéties, je pourrais écrire plusieurs livres sur tous les problèmes de santé, d'accidents, de conflits qu'on a pu traverser et que nous traversons encore. Mais ces paroles nous ont permis de ne pas nous focaliser sur les circonstances, mais de lever chaque fois les yeux pour recevoir sa paix, sa consolation et pour oser continuer malgré les circonstances de grandes tempêtes. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Si on est complètement perdu et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ?» Je pensais que j'envisageais d'eux et il n'y a rien qui se passe. Tout est flou, tout n'est pas juste. Dieu nous connaît mieux que nous. Nous, on décide, c'est une erreur. C'est Dieu qui doit décider pour nous. Parce que lui, il sait quand, il sait comment c'est le mieux pour nous. Pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Et nous l'avons vécu, par exemple, avec un de nos fils qui, pendant 5 ans, c'est long, 5 ans, hein, a eu une petite amie qui était super sympa. J'ai aucun reproche à lui faire. Mais mon mari et moi, on savait dans notre cœur qu'elle ne recevrait jamais Jésus. Et donc, on est restés pendant 5 ans en prière, en disant, attention Seigneur, notre fils, il doit trouver celle qui sera avec lui dans la foi. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, il est arrivé chez nous et nous a dit, j'ai rompu. Ce n'est pas nous qui lui avons dit qu'elle n'était pas bien, qu'elle n'était pas dans la foi. Non. On a laissé Dieu agir. Et ça aussi, c'est une clé. Ne vous prenez pas pour des dieux en voulant faire les choses à sa place. Laissez-le agir. Et on a vécu la même chose pendant 2 ans avec un autre fils qui a eu le même problème avec une petite copine. C'était moins long, c'était que 2 ans, mais on a recommencé, mon mari et moi, à s'accrocher, à prier et à dire « il faut qu'il trouve la bonne personne ». Et il l'a trouvée. Et on a vécu ça pendant les 5 ans de maladie de notre fille. 5 ans où elle a été malade à cause de son handicap, qui était caché, qu'on n'a pas trouvé. 5 ans où les médecins nous disaient « elle a une... » Non, c'était pire, c'était une... Comment on dit quand on a un cancer? On a des... Pas des métastases, avant la métastase, des... Ah, je ne sais plus. Et enfin bref, elle avait le cancer de la colonne vertébrale. Voilà ce qu'on nous a annoncé. 5 ans. 5 ans où elle n'a eu que des accidents, que des chutes, que des graves problèmes. À un point qu'elle et maîtresse, elle et copine de classe disaient « Mais Majo, t'es maudite, c'est pas possible. » 5 ans de prière. C'est pas possible, Seigneur. Nos enfants se marieront, ils auront des enfants et ils serviront l'Éternel. Et j'ai fait ça à chaque fois avec mon mari. Chaque fois, on a rappelé ces paroles. Et c'est vraiment ce à quoi je vous engage. Alors vous me direz, et on a entendu différentes personnes me dire, ouais, vous dites que tu dis que ton mari est guéri, c'est pas vrai, il est toujours sur une chaise. Puis sa maladie s'aggrave. C'est vrai. C'est vrai. Mais Dieu est là. On le voit tous les jours, avec les physios, avec les aides-soignantes, avec l'assurance qui nous rembourse tout. On le voit tous les jours qu'il nous tient la main. Mon mari ne se gêne pas, aussi malade soit-il, au fond de son lit, avec les aides-soignantes, à proclamer sa foi. Et nous avons beaucoup de musulmanes qui viennent et qui sont interpellées. Alors c'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas les circonstances, c'est Dieu. Et chaque jour, notre foi doit être alimentée et chaque jour, Dieu l'alimente. Et je vous en conjure, croyez que ça arrive, croyez que c'est vrai. Je vous encourage vraiment à lever chaque fois les yeux vers Dieu et de rester toujours dans le Saint des Saints. De regarder cette lumière quand vous entrez dans la pièce où se trouve Jésus. Jésus la lumière. Et ainsi devenir des disciples actifs pour Christ. C'est un chemin, mais c'est un chemin qui mène vers l'éternité. Et c'est aussi un chemin où on a besoin les uns des autres quand on a le moral dans les chaussettes. Ça aussi, c'est Dieu qui intervient. Un téléphone, une personne qui passe, etc., etc. Tout ça, ce sont des actes divins pour nous faire tenir le coup. Alors, si je puis vous dire une chose, ne regardez pas aux circonstances. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. laissez la ligne ouverte, n'y mettez pas trop de friture pour pouvoir l'entendre. Et alors vous verrez Dieu accomplir de grandes choses dans vos vies par la foi. Amen.